Sous le radar, une émission de Radio Créum.
Ce que je comprends, c'est que Mme Sauvé est dans la bataille et nous dit, dans cette bataille-là, il y a un aspect éthique très important. En fait, il y a deux ensembles assez diamétralement opposés de valeurs qui s'affrontent. M. Pinault nous dit, lui, en ce qui concerne la filière des gaz de schiste, il y a beaucoup de caca là-dedans, mais pour moi, ce n'est pas une bataille qui est de première importance. Il y en a d'autres. La question est légitime parce qu'il faut toujours se poser la question de, parmi toutes les batailles qu'on a amenées, quelle on va privilégier. M. Weinstock nous dit, ben cette bataille-là, elle est là et il faut bien choisir les angles sous lesquels on va l'aborder. Vous avez soulevé deux questions. La question de, est-ce qu'on est hypocrite ou non? C'est-à-dire, comment on mène cette bataille-là? Et vous avez soulevé aussi, si j'ai bien compris, la question de se servir de cette bataille comme d'un tremplin pour questionner ou mettre de l'avant un chantier qu'on pourrait appeler la réforme de nos institutions, de certaines institutions.
Gaz de schiste, les enjeux éthiques. Ça se passait jeudi le 30 septembre 2010 à la Grande Bibliothèque à Montréal. Autour de la table animée par Hugo Séguin, conseiller principal d'Équiterre, trois professeurs des universités de Montréal et une soixantaine de personnes saisissent l'occasion de se rencontrer et discuter des enjeux éthiques au cours de la filière des gaz de schiste et d'aborder un aspect qui n'a pas été discuté dans les débats qui ont fait rage tout l'été précédent. La réunion a duré 2h30. En voici les extraits les plus marquants. Écoutons d'abord Lucie Sauvé, professeure au département d'éducation et de pédagogie de l'UQAM.
Dans son désir d'acceptabilité sociale, le gouvernement du Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la faune et l'Association pétrolière et gazière du Québec ont entrepris toute une démarche d'éducation du grand public. Alors, vous comprenez bien qu'en tant que spécialiste de l'éducation relative à l'environnement, ça m'a particulièrement interpellée. On veut nous éduquer, oui, donc à quoi, pourquoi et comment. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en réalité, il y a là une confusion très grande entre acceptabilité, qui normalement est fondée sur des critères d'acceptabilité qui n'ont jamais été clarifiés, et acceptation. Alors, on se rend compte, dans le fond, que le ministère et l'entreprise gazière ne sont pas tant intéressés par l'acceptabilité que par l'acceptation. Et ça, la ministre Normandeau l'a bien dit. Le mot qu'elle utilise, c'est le mot « adhésion ». Nous voulons l'adhésion de la population, d'où la grande campagne. Donc, le mot « acceptabilité », on se rend compte que c'est une coquille vide, que c'est dans le fond, finalement, l'un des outils de marketing. Le gouvernement s'est donc lancé dans un projet éducatif gazier, d'accord? Et dont nous sommes les sujets. En quoi consiste ce programme éducatif gazier? D'abord, nous fournir de l'information. D'où vient l'information? Des compagnies gazières elles-mêmes. D'ailleurs, le document de base des audiences du BAP qui s'annonce est à peine quelques pages qui provient de rapports qui datent déjà d'un an de compagnies gazières. Alors, on nous dit que, heureusement, le BAP va permettre d'aller chercher, de compléter l'information scientifique, ce qu'on souhaite. Mais on se rend compte que l'information scientifique qu'on arrive à faire émerger depuis quelque temps sont loin de confirmer la thèse de la pertinence de l'industrie gazière. Mais enfin, toujours est-il que l'information scientifique, le développement technologique vont certainement régler la chose, selon le ministère et l'industrie gazière.
Mais je vois quatre grands principaux problèmes qu'il y a eu dans cette question des gaz de schiste.
Pierre-Olivier Pinault, professeur au HEC Montréal.
Un, l'attribution des permis et l'élaboration des redevances. Ça a été fait de manière improvisée, sans planification, et c'est un véritable problème qui est venu mider le débat et qui est venu comme complètement saper la crédibilité du gouvernement dès le départ. Après, on a un problème de communication publique, d'information, qui, encore une fois, comme l'a souligné Lucie, s'est fait de manière lamentable. On a un troisième problème de conflit d'intérêts avec le perçu, du moins, entre des membres du gouvernement et des membres de l'industrie, qui ne fait rien du tout pour rassurer la population. Et après, ce qui, à mon avis, est le principal problème environnemental lié à l'exploitation des gaz de schiste, c'est la question de l'eau, qui soulève d'énormes questions. D'où va venir cette eau? Comment est-ce qu'elle va être gérée? Et on a eu énormément de rapports, en particulier de la Pennsylvanie, sur des fuites des bassins de rétention des eaux usées et de la pollution, et donc un ensemble de problèmes. Donc je pense qu'il y a manière de régler en grande partie plusieurs des questions qui sont là. Est-ce que j'ai confiance dans le gouvernement actuel de le faire? Mais la réponse est un peu comme nous tous, en tant que citoyens, non, je n'ai pas confiance dans le gouvernement. Je pense que ça serait possible si on avait un gouvernement, si nous élisions, nous Québécois, un gouvernement responsable et solide, mais il y aurait moyen, à mon avis, de le faire. Mais il se trouve que nous avons élu un gouvernement qui n'a pas le courage de prendre ses décisions. En partie, et je ne blâme pas entièrement le gouvernement, en partie parce que la population n'est pas toujours la première à exiger des normes si strictes et que souvent, quand ça demande de changer nos habitudes de vie, mais on n'est pas toujours prêt à dire « je vais accepter certains compromis dans ma qualité de vie pour permettre une plus grande rigueur au niveau de la gestion ». Sur les gaz de schiste, ma conclusion personnelle, c'est que je préfère demander une application beaucoup plus stricte des règles actuelles et de laisser le début d'industrie continuer. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a des problèmes plus prioritaires à régler. Et dans mon évaluation de la situation, je me dis, je n'ai pas tant d'énergie à mettre contre les gaz de schiste, mais j'en ai plus à mettre contre une agriculture qui pollue bien davantage et qui est bien déficitaire, sans même bénéficier aux petites fermes qui sont partout au Québec. C'est les gros agriculteurs qui polluent. Et après, au niveau des transports, il y aurait des politiques publiques bien plus efficaces qui régleraient bien davantage le problème si au niveau du transport, on avait des meilleures alternatives.
Le premier point que je voulais amener, c'est celui qui est peut-être, maintenant que j'y pense, différent de celui de Pierre-Olivier, c'est sur notre responsabilité en tant que citoyens qui avons hérité et qui, au bout du compte, ne faisons pas tant de choses que cela pour changer un mode de vie systématique qui occupe et exploite le territoire d'une manière qui est extrêmement non efficace du point de vue de l'utilisation des ressources naturelles et qui fait que quand nous nous retournons sur le gouvernement et les compagnies pour dire écoutez non au gaz de schiste, nous sommes sur une base morale peut-être un peu plus fragile que nous le pensons.
Daniel Weinstock, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal et directeur du CREOM.
Ce serait une occasion manquée si nous ne posions pas la question de savoir comment raffermir les règles qui, aujourd'hui, définissent les conditions sous lesquelles une personne quittant des fonctions publiques peut entrer dans le privé. Ce que l'on entend comme un refrain depuis il y a quelques semaines, c'est qu'aucune loi n'a été violée. Pourquoi? Ben parce qu'une personne dans une position publique, sachant peut-être déjà que dans quelques semaines, dans quelques mois, elle allait occuper une position dans le privé, a fait de sorte qu'aucune trace papier ou électronique ne puisse être retracée vers elle qui aurait indiqué que, alors qu'elle occupait des fonctions publiques, elle avait été amenée à traiter du dossier de gaz de schiste. Ce n'est pas parce que la lettre de la loi a été respectée, qu'il n'y a pas quelque chose de fortement problématique, et je pense qu'il nous faut raffermir de beaucoup, par des gestes vigoureux, les frontières, les murs qui séparent le public du privé. On dit souvent qu'on veut pouvoir attirer vers le politique les meilleures personnes, les gens du plus haut calibre. Donc, il faudrait qu'ils puissent avoir une activité professionnelle. Il ne faut pas exagérer. Je pense qu'on peut avoir des règlements beaucoup plus stricts sur le temps et le type de pratique professionnelle qu'on est en droit de pratiquer après une vie politique. On peut être beaucoup plus sérieux dans les restrictions que l'on impose sans aller jusqu'à mettre des bâtons dans les roues à nos politiciens à tel point qu'après leur vie politique, ils ne seraient plus en mesure de faire quoi que ce soit.
Après avoir écouté les trois orateurs, la salle prend la parole. Danny Ouellet.
l'industrie s'est trompée de réservoir. Ils ne cherchent pas le méthane au bon endroit. Ils devraient aller le chercher dans le pergélisol ou les fonds marins des mers côtières arctiques parce que c'est des réservoirs instables et sous l'influence du réchauffement de la planète, sont susceptibles de libérer le nitrate de méthane en quantité phénoménale.
Pierre-Olivier Pinault.
Dans le Grand Nord, et je remercie beaucoup de monsieur de l'avoir mentionné, le méthane qui s'évapore ou qui s'échappe du pergélisol, la grande problématique, c'est la distance. Et aller chercher ce méthane-là serait très coûteux. Et il faudrait construire des réseaux de pipeline pour l'acheminer ici. Et il y aurait des problèmes d'acceptabilité sociale énormes. Au-delà des coûts financiers pour aller l'amener ici, les gens refuseraient, comme c'est le cas pour toutes les pipelines qu'on essaye de construire pour amener du pétrole du Grand Nord, enfin d'Alaska ou du territoire du Nord-Ouest canadien vers le Sud. Il y a des problèmes pour faire passer ces pipelines-là. Donc il y aurait non seulement des problèmes financiers, mais des problèmes d'acceptabilité sociale à le faire. Même si ça reste une très bonne idée, puis en fait, j'avais jamais réalisé ça, alors je vous remercie.
Michel Gagnon.
Alors, comme on a un débat éthique, la question que je me pose, c'est que dans le contexte où l'enjeu éthique semble tourner autour du développement économique par rapport à la justice sociale, existe-t-il dans la société québécoise une éthique socialement acceptable? Une éthique sociale ou environnementale qui serait socialement acceptable dans l'exploitation des gaz de schiste.
Lucie Sauvé.
À la question qui a été posée, mais quelle éthique? C'est la grande question, mais c'est vertigineux. La réflexion éthique est vertigineuse.
Danny Ouellet.
On est en face d'un choix de société. Avant que cette filière-là s'installe à grandeur des territoires où elle veut qu'elle convoite, c'est un choix de société, c'est un choix qui nous est refusé. On vit un déni de démocratie actuellement, parce que les choses sont passées finalement sans qu'il y ait de consultation auprès des gens avant de laisser l'industrie s'installer. Et même devant la contestation des gens, ce qu'on a, c'est une fin de non-recevoir de la part du gouvernement. Nathalie Normandeau l'a dit, il n'y aura pas de compromis.
Véronica Ponce.
Souvent, quand quelque chose est déjà commencé, c'est vraiment difficile de reculer. On est engagé dans quelque chose, on est au courant, je veux dire, les méga-porcheries, ça fait longtemps, ça change pas beaucoup. Alors que là, les gaz de schiste, il y a un petit développement, mais on n'est pas vraiment embarqué dans le truc encore. Donc je me dis, stratégiquement, c'est pas mieux d'essayer de stopper les gaz de schiste. D'abord, on arrête ça. Puis ensuite, on se tourne vers les problèmes agricoles. En même temps, je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de choisir? On peut peut-être faire les deux débats, mais je comprends qu'on n'a pas l'énergie de combattre tout. Donc, je me demande, pourquoi est-ce que vous pensez que stratégiquement, c'est mieux d'accepter les gaz de schiste puis de se tourner vers d'autres problèmes?
Pierre-Olivier Pinault.
Je suis d'accord avec l'urgence. Moi, si vous me demandez c'est quoi mon urgence personnelle, je me dis l'alimentation de l'Occident est tellement catastrophique avec sa consommation de viande. C'est, à mon avis, c'est ça l'urgence avec le transport. Le transport actuel, c'est ça mon urgence. Voir qu'on 400 000 voitures neuves sont vendues par année au Québec, je trouve ça lamentable. Et ce sont des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus puissantes. C'est ça mon urgence. Alors moi, je vais tout à fait pleurer avec les gens de l'île de la Madeleine et puis de plein d'endroits pour tous les dommages à travers lesquels ils vont passer. Et je peux faire la liste, là, quand je reçois Médecins sans frontières, ce qu'ils font en Haïti, je pleure. Quand je regarde au Pakistan, je pleure. J'ai des raisons de pleurer, j'en ai tous les jours. Alors, je me dis, le vrai cœur du problème, c'est ce que nous faisons avec notre énergie. Et si on réduit notre consommation énergétique, tous ces projets-là, ils vont tomber d'eux-mêmes. S'il y a des pipelines, on la construit, si elle n'est plus utilisée, elle n'est plus utilisée. Puis on la démonte, comme la raffinerie Shell, elle va être démontée. Et puis tout ce que je souhaite, c'est que tout ce qu'on aurait... si jamais on se mettait à construire un réseau de pipelines pour avoir le gaz de schiste du Québec, si dans 10 ans, il doit être démonté, on le démontera. Mais par contre, il faut que dans les contrats qui soient signés, ça soit aux frais de l'industrie. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut être hyper vigilant, que nos gouvernements, et que là, on les talonne pour qu'ils signent des contrats où ça soit inclus à l'intérieur. Maintenant, si on n'a pas confiance dans nos gouvernements, il faut faire des réformes institutionnelles que mentionne Daniel Weinstock.
Lucie Sauvé.
Moi, je préfère nettement apprendre dans une dynamique de démocratie délibérative que par la méthode violente de prendre tous les risques qu'engendrerait le développement gazier au Québec.
Joanne Béliveau.
Ce que je voudrais dire, c'est que quand l'industrie va être en train de consommer des tonnes et des tonnes, des millions de litres d'eau, ça va être très, très difficile de motiver les gens de diminuer leur consommation d'eau puis de fermer le robinet quand ils se brossent les dents. Moi, je pense qu'au contraire, il faut que le gouvernement et que tous nous collectivement nous poussions dans cette direction-là, que le gouvernement nous donne le bon exemple et nous motive et nous aide dans la direction des énergies renouvelables. Et c'est cette direction-là qui va nous motiver et qui va grandement. Effectivement, je suis d'accord que le gaz de schiste nous confronte à des situations et nous amène à une conscientisation beaucoup plus profonde, puis je peux en témoigner autour de moi. Merci.
Daniel Weinstock.
Je nous invite en quelque sorte collectivement à réfléchir à cette possibilité, qui est en quelque sorte le niveau de réflexion éthique qui se situe à l'inverse de l'utopie. L'utopie, c'est si nous pouvions changer le monde. La réflexion éthique qui nous est également imposée pour des raisons éthiques, c'est en faisant l'hypothèse qu'on ne changera pas le monde très rapidement, hein, dans l'immédiat. Comment faire de sorte que nous minimisions les dégâts que nous causons au monde?
Le mot de la fin, comme le mot du début, nous est donné par Jean Lapalme.
Mais le bijou dans la réunion de ce soir, c'est qu'on pose la question de quels sont les aspects plus éthiques ou plus fondamentaux qu'il faut et qui ne sont jamais posés. C'est pas possible de poser des questions comme celle-là dans une assemblée militante ou un peu échauffée. Alors merci, messieurs, dames. Vraiment, c'est assez intéressant.
C'était Sous le radar, une émission de Radio Créum. Présentation, Marc Zaffran. Réalisation, montage et tout le reste, Martin Blanchard. Merci à Mathias Delplanque et à son ensemble Lena and the Floating Roots Orchestra pour la musique.